pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
À Sevran, le 26 mars 2022, un homme de 32 ans a été tué par balle par un agent de la BAC. Jean-Paul avait 32 ans. Il laisse derrière lui une famille, des enfants et tout un quartier en deuil. À un feu rouge, situé à la jonction de Sevran et d'Aulnay, Jean-Paul est alors contrôlé par un des agents de la BAC qui descend du véhicule pour l'appréhender. L'agent de la BAC fait usage de son arme et l'utilitaire de la victime percute des véhicules garés dans la rue. L'homme de 32 ans succombera à ses blessures après avoir été transporté à l'hôpital. Présenté par les médias et les services de police comme connu des services de police, interpellé après un vol d'une camionnette, les faits se révèlent bien différents d'après les témoignages des habitants. Le père de famille aurait décidé de ne pas remettre à son employeur la camionnette de livraison avec laquelle il travaillait chaque jour en raison du non-versement de son salaire. Ce n'était donc pas un vol, mais l'action de résistance d'un travailleur qui veut récupérer son dû. Le geste de la police a donc été de protéger la propriété d'un employeur inique, au prix de la vie d'un travailleur. Abattu à un feu rouge, il est plus que douteux que la légitime défense fréquemment invoquée par les forces de l'ordre pour couvrir leurs abus soit une justification crédible. Le policier qui a tué Jean-Paul a été placé en garde à vue. Il serait poursuivi du chef d'inculpation de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec circonstances aggravantes de sa qualité d'agent dépositaire de l'autorité publique avec une arme. Tout peut changer. On est dans une période électorale présidentielle. Il ne faudrait pas que les banlieues s'embrasent. Même si le parquet de Bobigny poursuit, il faut rappeler que celui-ci dépend hiérarchiquement du ministère de la Justice et en cas de chantage, des syndicats policiers qui pourraient manifester sirènes hurlantes pour contester cette mise en examen, on pourrait connaître un revirement de situation. Cette affaire, ce n'est pas seulement l'affaire de la famille de Jean-Paul, mais c'est notre histoire à tous, celle qui se répète depuis des décennies dans les banlieues. La mort d'un frère, d'un père, d'un ami, d'un homme, tué par des policiers. Il faut le vouloir pour tuer un homme. Les policiers sortent de plus en plus leurs armes et tuent.
Ils ont ôté la vie à une personne, à quelqu'un qui était très respectueux, qui travaillait, qui essayait de donner une éducation correcte à ses enfants, à ramener de l'argent avec sa propre sueur. Et tout le monde qui sont là, qui ne peuvent pas se faire montrer, ils pensent tous la même chose que moi, haut et fort. On veut la justice pour Jean-Paul. et pour toutes les bavures policières et pour toutes les personnes qui sont parties avec aucune justification valable. C'est pas valable ce qu'ils ont fait. Vous êtes, les keufs, ils sont formés pour tirer à certains moments. Il avait rien du tout sur lui. Il avait pas d'arme, il avait pas de couteau. Il a rien fait du tout. Ils ont eu un signalement et voilà, il a pas voulu s'arrêter. Bim, on lui met une balle. Non mais ça va pas, quoi. On va où? Nous, on veut la justice pour Jean-Paul. C'est tout ça, c'est tout ce qu'on veut en fait. Il a laissé des enfants derrière lui. Il a vraiment laissé des enfants. C'est un papa, il a laissé une maman qui est malade.
Il travaillait, il avait une entreprise.
C'était quelqu'un de respectueux, il n'a jamais manqué de respect.
Aujourd'hui, il faut couper la version de la police. La version de la police qui tourne partout. C'est important.
On répète que l'impact de balle, il se trouve derrière le dos quand même. Donc on répète encore une fois, parce que la version là qui tourne depuis samedi, c'est voiture volée, nanani, colis volé. Donc il n'y a rien de tout ça qui existe. Donc encore une fois, on connaît les méthodes de la police, on connaît la complicité des médias pour faire tourner la version de la police. Mais les premières informations qu'on a aujourd'hui ici avec le comité Adama, elles sont claires. Il a pris une balle par derrière. L'impact de balle, il se trouve derrière le véhicule, donc il n'y a aucune légitime défense, il n'y a aucun policier qui était mis en danger et le vol en lui-même n'existait pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Les médias salissent, la justice couvre. Derrière les images de voitures brûlées, c'est tout un quartier qui pleure la mort d'un proche et qui doit faire face aux mêmes récupérations politiques. Évidemment, les médias mainstream passeront plus de temps à évoquer les dégradations d'ordre matériel qu'à se pencher sur les causes des révoltes. Des quartiers abandonnés, des écoles, des transports, des services de santé dégradés, des logements chers et mal entretenus, du travail rare et surexploité. Et pour couronner le tout, des brigades policières spéciales, surarmées, violentes et haineuses. Même si le véhicule avait été volé, ce qui n'est pas le cas. En l'état, il s'agit davantage d'une réquisition. Est-ce un motif pour abattre quelqu'un? La peine de mort est théoriquement abolie en France, mais elle est rétablie sommairement par les flics en toute impunité. C'est pour ces raisons que les habitants du quartier évoquent à juste titre un assassinat.
Il y a les habitants de Sevran-Bodoc qui se prennent des gaz. Il y a des tirs de LBD. Il y a des jeunes qui vont se faire tordre.
Nos enfants sont traumatisés. Oui, ce matin, quand ils sont partis à l'école, ils étaient inquiets. Qu'est-ce qui se passe dehors?
C'est la guerre, carrément. Ne laissez pas les habitants tout seuls. Depuis 50 ans, ça s'arrête aux frontières de nos quartiers. Il y a eu plus de 800 morts. Laissez pas les policiers rentrer et faire n'importe quoi dans nos quartiers. Parce que quand ils rentrent dans nos quartiers, ils s'en prennent aux femmes, aux enfants, aux pères de famille. Ils s'en prennent à tout le monde sans distinction. Protégeons nos jeunes. Ouais. C'est nos jeunes. Parce que demain, il va y avoir une double injustice. Il tue Jean-Paul. Et combien de ces jeunes-là vont se retrouver en prison?
C'est ça.
Combien?
C'est ça.
Pour avoir quoi? Défendu une injustice?
Après deux nuits de révolte, 16 personnes, dont 4 mineurs, ont été interpellées selon la préfecture.
La police, attention, on a affaire à des milices. On n'a pas affaire à des policiers. On a affaire à des milices, à des gens de 30 ans, qui pour la plupart sont armés, ils font des sports de combat. Et ils s'en prennent à nos enfants, ils s'en prennent à des jeunes de 15, 16, 17, 20 ans. Ouais. On ne peut pas laisser faire ça. Nos jeunes, c'est pas de la chair à canon.
C'est ça.
Il n'y a pas 800 voyous dans un quartier, il faut arrêter. Tous ces jeunes-là, ils sont à l'école. Tous ces habitants, ils travaillent. Ils se lèvent à 6 heures et ils prennent le train pour aller travailler. Venez ici à Sevran.
La loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique votée sous le gouvernement de François Hollande et de son ministre Manuel Valls est venue aggraver l'usage par les forces de l'ordre de leurs armes à feu. Le refus d'obtempérer peut se solder par la mort. C'est un véritable permis de tuer qui a été légalisé et qui endeuille aujourd'hui la ville de Sevran et tant d'autres avant elle. Depuis 2017, il y a une nette augmentation de l'usage des armes à feu par les policiers dans les cas de refus d'obtempérer. En réalité, dans la majorité des cas, il s'agit de personnes qui ne se sont pas arrêtées soit pour un défaut de permis ou par peur de la police. La mort de Jean-Paul nous concerne tous. C'est pourquoi un hommage sera rendu à Jean-Paul samedi 2 avril à 11h. Le rendez-vous est place du docteur Laennec à Aulnay-sous-Bois. Ce dimanche 27 mars après-midi, Un homme déambulait autour des rues Guimer, Branly et Timonier à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Cet habitant, âgé de 25 ans, était en pleine crise de nerfs. Il s'en est pris sans gravité aux policiers qui ont tiré sur lui alors qu'il n'était pas en danger. Il a été atteint de 2 balles, blessé grièvement, sa vie n'est plus en danger. La scène filmée par un riverain dure moins d'une minute, mais a figé d'effroi les habitants du quartier Nord et tous ceux qui l'ont visionné. La patrouille du commissariat de Villeneuve-Saint-Georges arrive et forme un triangle autour de l'homme. « Allonge-toi, mets-toi par terre, lâche ton couteau !» Ils le mettent en joue avec leur pistolet et un taser. Le policier tire. Son collègue tire également à 2 reprises. La victime s'écroule, touchée par 2 balles au niveau de la cuisse et du dos. Ce qui est particulièrement troublant quand on regarde la vidéo, qui a été heureusement prise par un passant, c'est que les policiers avancent vers leur victime, l'arme à la main, et qu'après avoir tiré, ils sont calmes. Alors qu'ils viennent de tirer sur un homme, aucun état d'âme. La vie humaine n'a plus de sens pour eux. Ce qui est révoltant, c'est qu'ils aient privilégié la neutralisation par balles réelles plutôt que d'autres méthodes. Ce n'est pas la première fois que des policiers tirent sur une personne souffrant de troubles mentaux. Il faut rappeler qu'un policier doit neutraliser, non tuer. Il dispose d'une matraque, d'un taser, d'un gilet pare-balles, d'une bombe lacrymogène. Les médiateurs et les éducateurs du quartier ont été déployés afin de maintenir le calme dans le quartier comme si c'était leur travail. Dans la cité, les habitants se demandent pourquoi l'un des 3 policiers n'a pas utilisé le taser qu'il tenait pourtant à la main ou d'autres méthodes. Mais les journalistes qui prennent directement leur information auprès des services de police ont eu la réponse qui couvre les fonctionnaires qui se trouvaient trop loin, selon eux, pour que le pistolet à impulsion électrique puisse atteindre la cible. Les images nous révèlent aussi qu'ils étaient très loin de pouvoir recevoir un coup de couteau et qu'ils auraient pu réagir autrement.
Demande de SP.
Je descends de votre chez moi en direct. Ils l'ont allumé direct devant moi.
Eh, vous aurez pu le taser directement, hein, pas besoin de l'allumer. Hein. Ben non, vous étiez 3, vous l'allumez à 3. À 3, vous tirez dessus. Hein ?
Vous
non, il vous a foncé dessus, vous aurez pu. Vous aurez vu pour. Mais vous êtes des ouf ou quoi ? Mais c'est un truc de ouf ! Vous allumez les gens comme des sangliers ! Eh, c'était débordé par la pression, je sais pas. Eh, ils l'ont allumé normal. Je suis là, je promène ma fille, je vois ça.
Vous vous rendez pas
non, je me rends compte, mais vous n'avez pas des stages de stress, d'anticipation. Vous n'avez pas des stages d'anticipation. Mais vas-y, vous étiez 3, vous l'avez mis un coup de taz, il aurait pu descendre direct. Mais vas-y, dans quelle ville? Moi j'ai grandi à Barbès, c'est 10 fois pire que ça. Tous mes potes, ils sont morts.
Une manifestation se tiendra le 3 avril à 14h, place de la République, dans le 10e arrondissement de Paris, organisée par les Mutilés pour l'Exemple.
J'ai pris un coup de matraque sur les cervicales, ce qui aurait pu me rendre tétraplégique si j'avais pas accroché mon écharpe de manière aléatoire dans le cou, ce qui a absorbé le coup de matraque. Il faut savoir que je me fais démonter par un commandant divisionnaire, le plus haut gradé de France. Donc quand ce monsieur fait ce geste, il montre aux autres ce qu'il faut faire pour être le plus haut gradé de France. Aujourd'hui, on est ici parce qu'on a eu conscience qu'un jour il fallait se rassembler. Et on a créé ce réseau, le réseau d'entraide, vérité et justice, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, que vous retrouverez partout, pour cet acharnement policier, que cet acharnement judiciaire, pour que ces policiers arrêtent de tuer, violer, mutiler, tabasser, ou je ne sais quoi encore. On a quand même des revendications, et je vais me permettre de vous les lire. Contre le déni de nos droits humains. Mettre fin au contrôle d'identité permanent et mettre en place le récépissé qui oblige les agents à justifier ces contrôles. Supprimer les délits d'outrage et rébellion. Pour en finir avec les procédures abusives et harcèlement au quotidien, le business des outrages. Il y a des 13e mois qui sont comme ça. Il y a des flics, quoi, on le voit bien au moment de Noël sur les manifestations des Gilets jaunes. On voit bien qu'il y a beaucoup d'outrages et rébellions à ces périodes-là. C'est pas pour rien. C'est leur 13e mois, hein. On leur fait. Interdire le harcèlement répressif et judiciaire contre les manifestants. Abroger l'article permis de tuer L435-1 de la loi sécurité publique du 28 février 2017, qui assouplit et élargit le cadre de la légitime défense. Interdire les techniques d'étouffement, clés d'étranglement, plaquage ventral et pliage. Darmanin nous vient de nous annoncer qu'il enlevait la technique qui a tué Lamine, qui a tué Adama, qui a tué énormément de personnes, sauf qu'il les remplace par trois autres techniques d'étranglement. Interdire les armes classées, armes de guerre, LBD et grenades, et les pistolets électriques pour la police du quotidien, comme lors des manifestations et dans les établissements pénitentiaires. Interdire les pare-chocages et les cours-poursuites pour des simples infractions routières. Supprimer l'usage systématique des gaz et de NAS en maintien de l'ordre. Fermer les quartiers d'isolement et disciplinaire, QI et QD. Dissoudre les équipes de matons cagoulés, ELSP et IRIS, responsables de tabassage et impliqués dans des morts suspectes. Installer des caméras dans les véhicules de patrouille. Contre l'impunité et le déni de justice, créer un organe indépendant pour enquêter sur les plaintes contre les forces de l'ordre et les surveillants pénitentiaires et pour garantir l'indépendance des expertises scientifiques nécessaires. Dépayser systématiquement l'instruction des plaintes contre les forces de l'ordre et les surveillants pénitentiaires. Mettre en place une assistance psychologique systématique pour les victimes et leurs proches et la gratuité des soins nécessaires. Garantir la prise en charge complète par la sécurité sociale et les mutuelles des soins et les traitements médicaux nécessaires consécutifs aux violences d'État. Garantir l'audition par les magistrats instructeurs de tous les témoins identifiés. Leur remettre une copie de leur audition et leur remise sous protection. Pardon. Garantir l'accès à tous les enregistrements audio et vidéo disponibles. Encadrer et engager la responsabilité des médecins intervenant dans les procédures judiciaires. Contre le dénigrement et les violences faites aux sans-papiers. Libérer la liberté de circulation et d'installation. La régularisation, la protection automatique dès leur arrivée des jeunes étrangers et étrangères isolés. La fermeture des centres de rétention. L'égalité des droits pour tous dans tous les domaines. Le droit de vote pour les étrangers. Enfin, nous exigeons la suspension immédiate des agents mis en cause pour les violences, pour les homicides et leur radiation définitive. La suspension immédiate des agents ayant tenu des propos ou commis des actes racistes et leur radiation définitive. L'abrogation de toutes les lois liberticides. Stop au racisme et aux violences policières, carcérales et judiciaires. Stop à l'impunité et à l'immunité accordée aux agents assermentés. Vérité et justice et réparation pour toutes et tous les victimes d'ici et là-bas. Force et courage et dignité aux familles. Force et honneur aux blessés et aux mutilés. Pas de justice ! Pas de justice !
La meilleure des polices ne porte pas l'uniforme. Incolore, informe. Elle s'immisce en tout, se mêle de tout. Se ressent partout, centrale, sans bruit. Sans rien d'écrit, sans aucun parfum. De la moindre gâchette, parfois même avec des talents de poète. La meilleure des polices demeure inégalable. Dans l'art de tous nous mettre à table. Tous en place, tous remis en cage. Sage, sans effusion ni rage, aucun usage, d'aucune trique, d'aucun bracelet à serrure métallique. La meilleure des polices n'extorque pas de renseignements, elle ne gâche pas son temps, des heures durant au fond d'un poste puant à faire couler le sang du dernier schlag échoué en cellule de dégrisement. La meilleure des polices chasse sur les terres, du paradis sur terre, qu'elle vend clé en main, où on connaît le moyen de procurer l'envie de rien, la peur de tout, l'effroi de la joie, l'angoisse du chagrin. La meilleure des polices, c'est tout ce qu'on te prend, tout ce qu'on te laisse, tout ce qu'on tue en toi, tout ce qu'on te mâche, tout ce qu'on crache, tout ce que tu bectes pour garder le goût, de moisir à crédit dans un putain de trou. Que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. La meilleure des polices, c'est ton taf, ta télé, tes crédits, tes anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs. et tout ce que tu prends pour pleurer moins fort la nuit. La meilleure des polices, c'est tes sourires forcés, c'est tes retenues sur salaire et le découvert avant la fin de la semaine. C'est la peur de faire un pas, puis deux, puis trois, parce qu'enfant, on t'a dit que t'étais une merde et que t'as fini par le croire. La meilleure des polices, c'est tout ce qui te fait marcher droit, avec ton propre consentement, sans jamais oser montrer les crocs, quand bien même on te propose de t'enculer. La meilleure des polices, c'est quand les pauvres savent rester à leur place, sans besoin de les matraquer, de leur coudre la mâchoire, ou de les mettre au cachot. La meilleure des polices, c'est ce qu'on apprend de mieux, du berceau au tombeau.
Et on passe donc à la deuxième partie de cette émission, dans laquelle nous vous diffusons une partie de la conférence de presse de présentation de la plateforme de contre-enquête du génie.
Merci d'être venu, d'avoir répondu à l'invitation. C'est notre première conférence de presse. C'est à la fois le lancement du groupe d'enquête indépendant, mais c'est aussi le lancement de notre première contre-enquête. C'est un peu c'est le rendu de nos conclusions. Dans un premier temps, je vais vous présenter le génie lui-même. Donc le génie, c'est le groupe d'enquête indépendant qu'on a fondé. On l'a fondé, on a commencé à parler de l'existence de ce génie, de ce groupe d'enquête, il y a maintenant plus d'un an et demi. Résultait de constats qu'on avait fait au contact des premiers concernés, dans la mesure où un certain nombre d'entre nous, membres du génie, ont participé ou accompagné des familles de victimes dans leur processus de quête de justice et de vérité. À partir des constats qu'on a menés auprès des familles, on s'est rendu compte qu'il y avait une volonté, une nécessité de dépasser la question de la justice, pour aller plutôt vers la quête de vérité. Et on a jugé qu'à ce moment-là, il y avait vraiment une nécessité de mettre en place des outils qui permettent aux premiers concernés de se réapproprier cette question de la vérité. On a face à nous, en fait, une institution judiciaire et policière qui fonctionne de manière relativement fermée, à huis clos, et qui exclut les premiers concernés, les familles de victimes et les parties civiles du processus d'enquête lui-même. Et notamment, c'est la scène de crime elle-même, qui est très vite, dès le moment des faits, est fermée au public, est fermée aux proches et est fermée à toute entité autre que l'institution policière et judiciaire. Le deuxième espace, c'est le laboratoire de police scientifique, qui est un espace qui est aussi exclusif dans la mesure où, là encore, seuls les enquêteurs et les personnes diligentées par la justice ont un accès à ces espaces-là. Le troisième espace, et c'est souvent le cas, c'est pas toujours le cas, c'est la justice elle-même, c'est les cours de justice, c'est les tribunaux. C'est des espaces dans lesquels, en réalité, dans beaucoup d'affaires, dans la plupart des affaires, les parties civiles ne sont pas sollicitées, elles n'ont pas vraiment un regard sur le process, et elles sont surtout, elles n'ont souvent pas la possibilité d'être confrontées aux personnes incriminées ou suspectées d'avoir tué leurs proches, et d'avoir à la fois des moments de confrontation et des moments d'interaction avec la justice qui leur permettraient de comprendre, d'entrer dans le dossier d'enquête et de participer à l'enquête. Donc c'est en collaboration avec les familles qu'on le fait, avec les familles de victimes, qu'on va essayer de contester le monopole d'État et participer, se réapproprier nous-mêmes ces moyens de l'enquête en faisant notamment des contre-enquêtes. Alors évidemment, c'est un espace extrêmement limitatif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir accès à tous les éléments qu'on voudrait, mais par contre, à un certain moment, les parties civiles, heureusement, ont accès au dossier de justice, donc à l'enquête et aux expertises officielles, qui vont nous permettre d'avoir des éléments sur lesquels mener une contre-enquête. Et c'est là que j'attire votre attention sur le fait que nous ne sommes pas des experts, c'est-à-dire que nous n'avons pas prétention à remplacer les experts qui ont été diligentés par la justice, ni à faire des contre-expertises. Donc ce qu'on fait, c'est essentiellement de la contre-enquête, c'est-à-dire qu'on va prendre l'enquête et on va contre-enquêter, ce qui nous permet aussi, à côté de l'enquête et du dossier officiel, de mener nous-mêmes des investigations, d'aller sur la scène où ça s'est passé et de solliciter les familles, les témoins, qui souvent n'ont pas été prises en considération par la justice. Et donc nous, on va réintroduire cette dimension-là qui manque dans un certain nombre d'enquêtes judiciaires, c'est la dimension humaine, la dimension du témoignage, qui est remplacée très souvent par la preuve formelle et scientifique apportée par des experts et des enquêteurs de police. Donc, dans un premier temps, je vais introduire le contexte de l'affaire qui nous regarde aussi, qui est l'affaire d'Angelo. Angelo Garand est un père de trois enfants, issue de la communauté des voyageurs et qui, au moment des faits, avait 37 ans. Depuis le mois de septembre 2016, il avait eu une permission de prison et suite à la permission de sortie de prison, pardon, il n'avait pas regagné la prison, ce qui avait occasionné en fait l'ouverture d'un mandat de recherche par la brigade de recherche de Poitiers à son encontre pour le localiser et organiser son interpellation. Cette opération-là a été décidée relativement peu de temps avant les faits qui nous concernent. Dans les deux semaines qui ont précédé, ils ont lancé l'opération à partir des constatations, observations et de la surveillance mise en place par la brigade de recherche. Et ils ont décidé de lancer cette opération pour le 30 mars 2017, dans la matinée. Donc on est aujourd'hui sur la date anniversaire du décès d'Angelo Garand, qui était il y a 5 ans exactement. Avant l'intervention, donc, ce qui va se passer dans cette journée du 30 mars 2017, c'est que la brigade de recherche va signaler l'arrivée d'Angelo avec son véhicule devant la propriété de ses parents à Sœur, dans le Loir-et-Cher, à proximité de Blois, environ vers 12h30. Et donc à ce moment-là, l'opération est lancée et le GIGN de Tours va être mandaté pour organiser cette opération et se déployer en fait sur la propriété entre 12h45 et 13h. Dans la propriété, on a un certain nombre de membres de la famille qui sont présents et qui organisent un barbecue et donc vont être les témoins directs de la scène. Alors pas directs parce qu'ils ne sont pas dans l'espace clos dans lequel va se passer la scène, mais sur la propriété. Les gendarmes vont entrer, vont se déployer en trois équipes, trois unités qui vont en fait fouiller les différents espaces à l'intérieur de la propriété. Dans un premier temps, vont interpeller tous les membres de la famille, les mettre au sol, les menotter dans le milieu de la cour avant d'aller dans les différents espaces. Ils rentrent bredouille de la fouille et il y a un moment de latence où en fait, ils se demandent ce qui s'est passé et c'est là que va intervenir un bruit dans une dépendance qui n'a pas été fouillée, qui va attirer l'attention des gendarmes et qui vont initier en fait l'opération qui va mener à la mort d'Angelo Garand. Pour restituer le contexte, très rapidement, à deux jours après l'intervention et dès les auditions de gendarmes, émerge l'argument de la légitime défense. Pour remettre dans le contexte, la loi de légitime défense vient d'être adoptée à ce moment-là. Elle a été adoptée le 1er mars 2017, très précisément le 28 février 2017, et elle est implémentée et transmise aux forces de gendarmerie le 1er mars 2017. Cette loi de légitime défense va en fait ouvrir un nouveau cadre d'intervention de la légitime défense et d'application de la légitime défense qui va être spécifique pour les forces de l'ordre et les forces de sécurité.
Alors voilà, on est 5 ans et plus tard. Mon frère est vivé ces dernières heures. D'habitude, on marche, on réclame justice et vérité. Mais au stade où nous en sommes, en fait, on a utilisé tous les recours en France judiciaire. Nous en sommes à la CEDH et pour nous, en fait, il n'y a pas de justice en vérité. Il y avait quand même ma famille ce jour-là, il y avait mon fils de 3 ans, mon père à Sainte-Mette. Ils n'ont rien entendu. Ça a été une exécution, en fait. Ils sont rentrés à Padoue, ils sont rentrés et il y a eu les coups de feu aussitôt. Mon frère a été exécuté de 5 balles d'entorse, 5 ans après, 5 balles d'entorse, devant 5 hommes du GIGN. On a réclamé justice, on n'a pas eu justice. Et ça, je peux vous dire qu'il n'y a rien de pire. Aucun citoyen en France, on refuse un procès. Quand il y a des actes terroristes, on réclame, normal, on réclame que la famille ait le droit à la vérité, qu'elle ait le droit à la reconnaissance, et surtout que mon frère il soit reconnu en tant que victime. Parce que mon frère, là, il n'est même pas reconnu en tant que victime. Mon frère, il n'a rien. Mon frère, il a mérité sa mort pour la justice. Et en fait, ça, c'est une exécution légale. Voilà où on en est, à cause de leur putain d'article de loi, un mois avant la mort de mon frère. Et ça, on ne peut pas l'affirmer, mais on a rencontré des sœurs dans la bataille. On sait que c'est le résultat du policier qui a tué Amine Bentoutsi. Parce que la justice, ils veulent pas. La justice, ils veulent que leurs agents ils puissent tuer, leurs agents ils puissent faire ce qu'ils veulent. Et tout ça avec du racisme. Mais nous, aujourd'hui, 5 ans après, aujourd'hui, là, on regarde les heures, en fait, on regarde les minutes à l'heure actuelle, nous. Parce que mon frère, il vivait sa dernière heure. Mon frère, il avait 3 enfants le 30 mars. Il n'était pas venu nous attaquer, Angelo. Angelo, il était venu manger un bout de pain avec nous en famille. Voilà ce qu'il a fait le 30 mars. C'est ça, c'est pour ça qu'il est mort, mon frère. Rien que pour ça. La permission de sortie, c'est qu'une, ça, tout ça, c'est qu'une excuse, en fait. On donne une permission, une journée à un homme, avec de lourdes peines, avec des tribunaux qui vont arriver après. Il savait, Angelo, une journée, évidemment qu'il n'est pas rentré, il a 37 ans, il a été massacré, mon frère, par la prison pour des délits mineurs, parce qu'on peut le décrire, ils peuvent le décrire comme ils veulent, comme un fou furieux. Nous, on connaît, on sait, oui, il a fait des vols, Angelo. On a, nous, la famille, on n'a jamais dit que mon frère, c'est un saint, jamais. En l'occurrence, lui, par contre, il n'a jamais tué personne. Et même s'il l'aurait fait, il ne méritait pas de mourir. Et lui, s'il l'aurait fait, il aurait passé au tribunal. Eux, les cinq, là, parce qu'il y a les deux tueurs, mais il y a les cinq menteurs. Et bien, eux, ils vivent leur vie tranquille. Du matin au soir, du soir au matin, on pense à Angelo. La lutte, en fait, on vit rien que pour lutter. On vit rien que pour que vous tous, vous sachiez que ce n'est pas parce que, machin, parce que ça aussi, c'est pareil, genre du voyage. Tout le long du dossier, c'est systématiquement rappelé. Gens du voyage. On ne peut pas dire en fait que les enquêtes y sont dirigées aussi. Ça aurait été monsieur fils de préfet. On ne l'aurait pas reproché. Ça n'aurait pas été le problème. Il est, moi, pour moi, mon frère, il est mort parce qu'il fait partie de la communauté des gens du voyage. Donc on lutte contre le racisme. En fait, on lutte pour une justice. On n'en attendait rien de la justice. Mais ce qu'on estime, c'est que quand la force publique tue, un procès public doit avoir lieu, et un procès public aux yeux de tout le monde. Aux yeux de tout le monde, parce que ça, ça peut arriver à n'importe qui. Et voilà où on en est. Et en fait, aujourd'hui, je suis contente et je suis fière. Je suis fière, malgré tout, d'avoir eu un frère comme j'ai eu. Je suis fière du combat mené, malgré qu'on a perdu la justice. Parce qu'en fait, la justice, on n'attendait rien de la justice. Jamais de ma vie, moi, la sœur d'Angelo, j'aurais demandé que les gendarmes aillent en prison. Moi, je voulais que les gendarmes, ils disent la vérité, qu'ils arrêtent de mentir. Mon frère, il n'avait pas de couteau, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de lutte, il n'y a rien eu. Oui, Angelo, il avait un couteau dans ses poches, comme tout le monde, comme même moi, comme tout le monde, en fait. Et je suis fière de m'être battue. Et aujourd'hui, 5 ans, 5 balles dans le corps de mon frère, je suis... Mais en fait, c'est la porte vers la délivrance. Et aujourd'hui, je suis fière du travail que le génie a fait. Et mon frère, il peut reposer en paix. Et mais imaginez-vous que tout ça, c'est nous, une famille qui n'a rien demandé. C'est nous qui a fallu qu'il fasse ça. Il nous faut, en fait, nos outils. Il nous faut des groupes d'enquête. Parce que nous aussi, on a le droit à la paix. On a le droit à la vérité. On a le droit à tout ça. Voilà, ce qui s'est passé, c'est dégueulasse. Mon frère, il avait 3 enfants, il avait le droit de vivre. Parce que nous, on a eu accès au dossier un mois et 10 jours après. Mais nous, affectés par la mort, et nous, on n'est pas dans ce milieu-là, on n'est même pas militants à la base. Hein. On se retrouve avec un dossier comme ça dans les mains. On n'a rien... Enfin, on a vu la modification de scène de crime, on a vu. Mais l'ordre des tirs et tout ça, nous, on peut pas deviner ça, en fait. Et les familles, ils ont besoin d'outils pour la vérité. Le procureur, 2 jours après la mort de mon frère, il se vante de légitime défense, dans des propos incohérents, et... Il dit quand même, on mettra tout en œuvre pour qu'il y ait la vérité judiciaire. C'est quoi la vérité judiciaire? Eh bien la vérité judiciaire, à l'heure actuelle, c'est des exécutions légales dans le pays des droits de l'homme, qu'est la France. Et ça, c'est totalement pourri, quoi. En France, c'est fini, il n'y a plus aucun recours, c'est légal. Et avec l'application du L435-1, c'est cet article de loi, que vous voyez bien que, en fait, c'est sur ce qu'ils ont pu penser, la stricte proportionnalité et la nécessité. Si 5 hommes du GIGN ne sont pas capables d'attraper un homme, en plus avec leur dire que mon frère serait débattu, nous on sait totalement que c'est complètement faux, et on ne mentirait même pas. Franchement, Angelo, il serait débattu. Les hommes, c'est des bonhommes ou c'est pas des bonhommes, franchement. C'est fini pour nous en France, voilà.
Les membres de la famille sont aussi témoins. À minima auditif, ils disent « il n'y a pas eu d'injonction, il n'y a pas eu de sommation ». Il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de bagarre. Et d'ailleurs, les gendarmes confirment, Angelo n'a prononcé aucune parole. Ils le décrivent agressif, ils parlent d'une mêlée quand il tombe au sol, donc ils décrivent une certaine bagarre qui n'est pas confirmée par le son. On est allé aussi sur place, on a écouté. C'est-à-dire qu'on fait tomber une cuillère à l'intérieur, on entend à l'extérieur. C'est pas une masure, la porte est ouverte, et les témoins, notamment le père d'Angelo, étaient à 5 mètres de la porte d'entrée de la remise, avec un visu sur l'entrée de la porte. Il n'y a pas eu de son, la question de la bagarre ne tient pas, et surtout, les témoins disent tous, les tirs ont été effectués immédiatement après l'entrée dans les lieux. Et après les tirs, un gendarme est sorti avec un vêtement ensanglanté qui disparaît, en fait, dans la version. Et la famille confirme qu'Angelo, en fait, n'avait pas du tout pour habitude de se mettre torse nu et qu'il n'y avait pas, en fait, de raison plausible de croire qu'il était torse nu dans cette remise. L'événement a lieu le 30 mars. Le lendemain, il y a la remise en situation où les gendarmes sont, en fait, sollicités pour rétablir, décrire la manière dont ça s'est passé selon eux. Puis, le surlendemain, donc au lendemain de la remise en situation, le 1er avril, le procureur de la République déclare qu'il y a eu légitime défense, établit la version des gendarmes. Et le 7 avril, si je ne me trompe pas, l'enquête préliminaire est close avant même que les conclusions définitives des rapports d'expertise balistique et médico-légale soient rendues. Et une instruction judiciaire est ouverte au même moment, je crois, par le procureur lui-même, le 7 avril. Et les expertises, les rapports d'expertise médico-légale et balistique vont arriver 20 à 55 jours plus tard. Les gendarmes sont mis en examen en septembre 2017 et l'instruction est close dès janvier 2018 et va aboutir dans la succession un certain nombre de non-lieux qui vont être confirmés par la cour d'appel en 2019 et confirmés encore une fois, enfin pas confirmés mais en tout cas le pourvoi en cassation va être rejeté en 2020, juin, je crois. C'est ça. Il a fallu, en fait, rétablir le contexte. Donc, on va devoir reconstituer la remise, et notamment, on va utiliser les photographies du dossier judiciaire. Ici, on a quelques exemples de photographies où, en fait, on va voir les différents éléments, les différents indices mis en place par la brigade de recherche. À partir de ces photos-là, on va réaliser ce qu'on appelle un photomatching, c'est-à-dire c'est une technique de modélisation 3D à partir des images qui nous permet en fait de projeter sur un modèle 3D, de projeter les photographies pour pouvoir reconstituer en transparence la scène telle qu'elle apparaît sur les photographies. Dans la modélisation 3D, on inclut en fait donc ces caméras qu'on voit ici modélisées de telle manière sur le logiciel qui vont en fait être... chaque photo va donner l'occasion de mettre une caméra différente. Donc on va avoir une multitude de caméras dans l'espace clos pour représenter de manière extrêmement précise la taille des objets, la disposition des objets, mais aussi la disposition du corps de la victime qu'on voit ici sur la représentation. Comme je l'ai dit précédemment, identifier ce qui constitue des indices pour la justice et les remettre dans l'espace pour nous permettre ensuite de mener la contre-enquête. Et ça va nous permettre également de s'apercevoir qu'il y a un certain nombre d'objets dans la pièce qui comportent des traces de sang. Et ces traces de sang, on va pouvoir aussi, par rapport à la technique du photomatching, les représenter avec une grande précision sur les objets modélisés en 3D. Ce qui va nous permettre en fait d'identifier les trajectoires de sang, des projections de sang, et ce qui va pouvoir, sans avoir une précision au millimètre, et une certitude que les objets n'ont pas bougé, on va pouvoir reconstituer la zone où s'est passée la scène. À partir des photographies du dossier, on se rend compte aussi que certains objets ont été modifiés. La remise en situation de la scène a été réalisée le lendemain des faits, en présence de la brigade de recherche, avec les gendarmes impliqués, qui en fait vont dire tel objet était plutôt là, le vélo était plutôt ici, le meuble était plutôt là. Et à partir de là, on va pouvoir se rendre compte que le vélo et le meuble en bois, notamment, qui vont être déterminants dans cette affaire, ont été déplacés. Et donc, quand on les remet à leur place, d'après les auditions des gendarmes et la reconstitution, on se rend compte qu'il y a une zone très déterminée dans laquelle les tirs ont été effectués. Ensuite, on va avoir besoin du corps de la victime pour comprendre ce qui s'est passé. Dans le dossier judiciaire, on a évidemment un rapport d'autopsie, un rapport balistique, dans lequel il y a un certain nombre de détails, notamment une radiographie du corps de la victime, sur laquelle on voit les projectiles à l'intérieur du corps. À partir de ces éléments, des photos de rapports d'autopsie, mais aussi de la radiographie, on va aussi pouvoir réaliser un photomatching pour reconstituer avec précision le corps d'Angelo, sachant qu'il y a aussi dans le dossier judiciaire des données précises sur sa taille et sa position dans l'espace. On va déterminer à partir des plaies apparentes sur le corps des trajectoires de tir, qui sont aussi établies par la balistique. Notamment, on va avoir 5 trajectoires de tir sur le corps d'Angelo, qui vont correspondre aussi en termes de place avec les balles retrouvées à l'intérieur du corps. Et aussi, précision du coup, toutes ces trajectoires, confirmées par le dossier judiciaire, sont descendantes de l'avant vers l'arrière, dans le corps d'Angelo. Elles sont toutes descendantes. Dans le dossier judiciaire, le balisticien, l'expert balisticien, va établir des distances de tir. C'est jamais avec une précision au millimètre, puisqu'ils ne peuvent pas le faire, ils font des tests de tir, et ils établissent des distances de tir. On sait que la plupart des impacts de balles dans le corps d'Angelo ont été réalisés à 50 entre 50 et 70 cm d'Angelo, donc avec une proximité par rapport à Angelo extrêmement grande. On va devoir s'intéresser du coup à la version des gendarmes. Et c'est là où nous, il va falloir qu'on lise, qu'on analyse les moindres déclarations des gendarmes pour tirer le vrai du faux, d'après leurs initiales. C'est important de noter que quand ils rentrent dans la remise, ils sont équipés de tout ce matériel-là, de 5 pistolets Glock, donc ils en ont un chacun, d'un fusil Beretta, de 2 HK-UMP fusil mitrailleur et de 2 tasers. Donc ils ont tous une arme de service et une arme secondaire. L'entrée est ici. Les 2 premières entrées sont FD et AB qui vont se positionner en fait respectivement à droite et à gauche de la remise avant de se rejoindre à la découverte d'Angelo par FD. Puis, dans un second temps, 2 autres gendarmes vont intervenir, RS et JPB. Et dans la version des gendarmes, très rapidement, ils vont expliquer qu'ils essayent d'interpeller Angelo, qui lui signifie de sortir de sa cachette. Il y a un certain nombre d'injonctions qui sont prononcées selon les gendarmes, gendarmerie, sort de là, etc., etc. Et Angelo va se lever, et selon déclaration de FD, il est main levée. Il se lève, il est main levée, et à ce moment-là, RS comme FD disent « on essaye de le saisir ». L'un par le bras droit, FD, l'autre par l'épaule gauche, RS. RS va dire « je ne peux pas lui saisir l'épaule », donc il va se reculer. Le deuxième FD va tenter de saisir le bras droit. Et donc, n'arrivant pas à interpeller Angelo, puisque Angelo aurait retiré son bras et aurait saisi un couteau. Et donc ça, c'est l'argument qui va être utilisé pour la légitime défense, on y reviendra. La réaction de RS va être de tirer un premier coup de taser. Puis, dans un second temps, Angelo, qui n'aurait pas réagi, qui n'aurait pas été affecté par le tir de taser, se serait rué avec son couteau toujours vers FD. Et alors qu'il était à 40 cm de FD, FD aurait tiré à son tour avec le taser. Angelo Garand ne serait toujours pas arrêté dans sa course et aurait poursuivi sa course, toujours en essayant, avec des mouvements circulaires du bras, d'attaquer l'agent FD sur sa droite avec son couteau. Ce qui aurait impliqué un premier tir de la part d'AB, qui se trouve face à lui, à l'encontre d'Angelo. Donc une première séquence de tir. À la suite de cette première séquence de tir, ils affirment qu'Angelo n'a toujours pas arrêté dans sa course et continue d'agresser FD au couteau, et là il va se passer quelque chose qui est décrit par AB comme un coup reçu au niveau de la mentonnière, du menton, et qui va le propulser en arrière et le propulser à peu près à ce niveau-là dans la pièce. Et il va dire qu'au moment où il reçoit ce coup, il n'est pas sûr si c'est exactement avant ou exactement après, il ne saura jamais le localiser dans les auditions, il tire une seconde séquence de tir. Donc il va appliquer plusieurs tirs sans savoir exactement combien. Et qu'en fait, à ce moment-là, en fait, il va tirer cette séquence de tir et Angelo aurait continué à progresser et se serait subitement retourné vers la porte. Après avoir coincé FD dans le coin, il se serait retourné vers la porte et c'est à ce moment-là que BD, le second agent équipé d'un Glock 19, d'un pistolet, va tirer sur Angelo. Un tir, le tir vert, fatal, qui est censé avoir mis fin à la course d'Angelo, qui va en fait tomber entre FD et AB sur le vélo. Ça, c'est la version des gendarmes. Il va nous falloir la décrypter. Dans le dossier de judiciaire, il y a une expertise balistique qui revient sur le redatage des tasers, qui récupère les armes, qui analyse les armes et qui va dire on a un tir à 13h10 et 20 secondes et on a un tir à 13h03 et 47 secondes. Donc on se dit 7 minutes d'écart. Il y a quelque chose qui ne colle pas. En réalité, l'expertise balistique, qui est assez transparente sur ce fait, va dire attention, il y a eu un déréglage des tasers avant notre expertise. En rétablissant les horodatages, on tombe sur des données qui sont confirmées par le dossier judiciaire, avec un tir à 13h05 et 45 secondes, et un deuxième à 13h05 et 54 secondes. Et là, on se rend compte assez aisément qu'il y a une inversion de la chronologie des tirs de taser. On va s'intéresser du coup aux arguments de la légitime défense. Premier argument, ils tirent parce que leur collègue FD est attaqué au couteau par Angelo. Deuxième argument de la légitime défense, AB est projeté au sol, supposément frappé au menton, et projeté vers l'arrière par quelque chose qu'on n'identifie pas vraiment. L'un des protagonistes va dire « j'ai pensé qu'on avait tiré sur mon collègue », tandis que les autres vont dire « il est tombé, il a été projeté », et lui-même dit juste « j'ai eu un coup au menton », mais il n'explique pas vraiment ce qui s'est passé. Donc on va s'intéresser dans un premier temps au couteau qui est retrouvé sur la scène, qui est retrouvé, on le dit, dans le prolongement du bras droit d'Angelo. Le couteau est décrit par les gendarmes, les enquêteurs leur demandent de décrire ce couteau. Les contradictions s'accumulent sur la description du couteau. On va demander du coup à AB, qu'est-ce qui motive l'ouverture du feu ? Il va être persistant sur le fait que c'est la légitime défense, que c'est la vie de son camarade, donc FD qui est attaqué au couteau qui est en jeu. Et on va lui demander sur la première séquence de tir, vous tirez pour quel motif ? Parce qu'il va tuer mon camarade, c'est un tir indispensable à la survie de mon camarade. On va s'intéresser au certificat médical de FD, qui ne montre rien. Il n'a pas reçu de coup de couteau, il n'a pas d'éraflure de couteau, il n'a rien qui laisse supposer qu'il a été attaqué ou qu'il a été touché par le couteau. BD, à son tour, on va le questionner sur ce couteau. Il va réitérer dans ses déclarations le fait qu'il n'a pas vu de couteau. Il n'a jamais vu de couteau. Le seul moment où il voit le couteau, c'est à la fin. Donc, on peut assez facilement dire que rien n'établit la réalité de la présence du couteau. Et notamment, on va s'intéresser aux déclarations d'AB lui-même, qui va en fait être interrogé sur la deuxième séquence de tir. Puisque vous vous souvenez, il dit qu'il tire une fois, puis il tire une deuxième fois. Et il va expliquer qu'en fait, au moment du deuxième tir, il est en train de tomber. Qu'il tire alors qu'il est en train de tomber et qu'il va s'évanouir, perdre connaissance, après avoir tiré la deuxième séquence de tir. Il ne sait pas exactement combien de balles il a tiré, il sait juste qu'il a appliqué des tirs. Il est interrogé sur le nombre de balles, il dit qu'il avait un chargeur de 15 cartouches et il a calculé qu'il lui en manquait 7. Dont 4, selon la version officielle, sont entrés dans le corps d'Angelo. Et 3 sont passés à côté. On y reviendra après. On analyse la chute de AB. Donc il explique qu'il était à peu près dans cet environnement-là, que projeté en arrière, il va appliquer son tir. Et on lui demande comment il est tombé. Donc il explique qu'il a eu un choc qui l'a tapé sous la mentonnière, que c'était un choc dans le genre d'une frappe, qu'il est tombé en arrière. On va regarder le certificat médical de AB, qui en tout cas, sur la question du menton, établit qu'il fait mention de douleurs musculaires dans les cervicales, mais rien au niveau du menton, ne permet de dire qu'il a reçu un coup. S'il avait été appliqué au moment de tomber, le tir aurait été ascendant ou légèrement vertical, mais ne serait pas rentré dans le corps d'Angelo de cette façon-là, ou alors il faudrait supposer qu'il était allongé au sol. Ce qui nous permet de dire à un moment donné que rien ne permet encore une fois d'établir qu'AB est réellement projeté au sol au moment d'appliquer ses tirs, et que rien ne permet d'établir qu'il a réellement été frappé. On va s'intéresser du coup à l'expertise balistique. On va, comme j'ai dit, se rendre compte que 3 balles ont disparu. Il manque aussi quelque chose d'autre dans le dossier judiciaire. On évoque à un moment donné que la trajectoire des taches de sang peut permettre d'établir en fait un périmètre ou une localisation précise du corps d'Angelo, de la situation d'Angelo au moment des tirs. Pourtant, aucune morpho-analyse des traces de sang n'est effectuée dans le dossier judiciaire. Donc ça nous amène sur nos hypothèses. Premier tir de RS au taser, deuxième tir de taser, les shérifs qui échouent, puis un tir, un premier tir bleu par AB. AB tomberait au sol dans cet espace d'intervalle de temps avant d'appliquer une autre série de tirs. Angelo se serait retourné et ce qui aurait impliqué le tir vert fatal qui vient à la fois pour arrêter la course d'Angelo mais aussi pour protéger ses collègues. Et qu'à l'issue de cette chronologie officielle, Angelo tombe. Précisons qu'Angelo, il est décrit très précisément, sa position finale est décrite très précisément par les gendarmes. Quand il tombe, son corps effectue une rotation, ce qui explique aussi les tirs qui ne sont pas tous, qui sont rotatifs, c'est-à-dire que son corps tombe sur le côté et se retrouve sur le vélo, sur le flanc droit, ce qui est confirmé par tous les gendarmes, et notamment par FD qui tombe avec lui. Il se décrit, il dit « on est comme couchés l'un derrière l'autre sur le flanc droit ». Tandis que AB, qui est bien tombé, mais pas comme il le dit, qu'on pense être tombé après, est lui aussi potentiellement bousculé par Angelo dans sa chute et tombe sur le côté, également sur le vélo. Et donc il le confirme, il tombe sur le vélo. Ce qui nous permet de dire qu'un certain nombre des éléments ne sont pas, pour nous, établis. Notamment, on pense que Angelo n'a pas attaqué les gendarmes, qu'il a tenté peut-être d'échapper de la remise après avoir reçu des coups de taser. Et suite au premier tour, au premier tir, il a commencé à chuter. Et donc on va inverser la chronologie comme telle, c'est-à-dire qu'on sait que les tirs de taser déjà sont inversés, donc il y a un premier tir défectueux, réalisé par le chef d'unité FD, qui va en fait, comme il est défectueux, entraîner naturellement un deuxième tir de taser par son collègue, qui va venir en fait effectuer ce tir de taser qui n'a pas marché pour son collègue. Puis, donc BD aurait appliqué un premier tir bleu alors qu'il est le dernier à rentrer dans la remise. Il le dit lui-même au moment des auditions, il rappelle, il dit « Moi, je rentre dans la remise quand j'entends qu'ils ont déjà découvert Angelo. » Donc quand ses collègues prononcent le mot « couteau ». Il entre dans la remise et on comprend à ce moment-là que potentiellement, en arrivant, il applique son premier tir. Suite à quoi, son collègue tire à son tour plusieurs tirs successifs. Et on estime que le tir vers le second tir de BD, qui est considéré par le dossier judiciaire comme le premier, a été potentiellement tiré pendant la séquence des autres tirs d'AB. Angelo finit par tomber et entraîne dans sa chute FD de la même manière que AB, qui vont effectivement se retrouver au sol comme il le déclare.
Donc là, le tir fatal n'est pas le dernier.
Et donc c'est là que nous, on se permet d'établir cette hypothèse selon laquelle, d'après toutes nos conclusions et nos recherches, le tir vert, qui est celui de la légitime défense, n'est pas celui de la légitime défense, qui n'est pas le dernier qui intervient pour aider, pour secourir ses collègues, mais qui en fait, il fait partie d'une séquence de tirs simultanés, et donc on peut se permettre d'établir une hypothèse. Attention, c'est une hypothèse. Angelo va sortir, va avancer en dehors de sa cachette, c'est-à-dire qu'il enjambe un motoculteur, et à ce moment-là, il va recevoir un premier tir de taser à 1m38, 1m30, 1m38 de distance, qui ne va pas fonctionner. RS va appliquer un deuxième tir de taser qui, lui, va fonctionner sur Angelo, qui va, en fait, dans la suite, juste réagir à ces tirs de taser et potentiellement soit déjà se tomber en avant, soit essayer de s'échapper. Et c'est à ce moment-là que lorsqu'il passe devant le meuble en bois, qu'il sort de devant le meuble en bois, il prendrait un premier tir, qui est la trajectoire tangentielle sur le côté, avant de prendre le tir jaune de face, qui arrive comme ça dans son corps, puis les tirs vert et bleu, à peu près en simultané, qui tombent, qui sont parallèles, vous vous souvenez, dans le corps, donc avec une trajectoire extrêmement proche, et un dernier tir rouge qui intervient dans ce laps de temps où AB est peut-être en train de reculer, mais il n'est pas en train de tomber, et ce qui laisse supposer qu'Angelo, à ce moment-là, est en fait en train de terminer sa chute sur les collègues de AB. Et donc, en fait, en tombant à plat ventre, AB applique son dernier tir avant de tomber avec les trois, avec Angelo et FD sur le vélo. En tout cas, il y a un certain nombre de détails qui sont extrêmement importants à avoir à l'esprit. C'est que, un, la scène de crime a été modifiée. C'est-à-dire que directement à l'issue des tirs, alors qu'Angelo est au sol, alors qu'il est dans un premier temps menotté puis démenotté, toutes les auditions confirment qu'ils vont déplacer son corps pour l'enlever du vélo. Donc ils confirment dans les auditions qu'ils enlèvent le vélo, ils déplacent le vélo, qu'ils déplacent le corps d'Angelo et qu'ils le placent, donc comme on va le retrouver après, au milieu de la place, avec le couteau dans le prolongement de son bras, alors qu'il avait été décrit dans le coin près du mur, au-dessus de sa tête, au moment où il est retrouvé sur le vélo. On sait que le corps a été déplacé, on sait que le vélo a été déplacé, on sait que le meuble en bois a été déplacé, ce qui est aussi confirmé par l'un des gendarmes, qui va même dans les auditions le dire. C'est pas seulement la reconstitution, la remise en situation, il va dire, oui, à un moment donné, on a enlevé le meuble en bois. On a donc ce qu'on peut appeler une contamination de la scène, assez évidente, qui va en fait fausser l'analyse par la brigade de recherche, par les enquêteurs, et donc fausser la compréhension du public, des familles, et qui va en fait nécessiter notre travail, c'est-à-dire de démêler ces choses-là.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.